Non. Eh, Dieu vous aime autant. Hein. Est-ce qu'il y a parmi vous ce soir des voyageurs? Je m'attendais un peu plus, mais il y en a qui aiment voyager? Il y en a qui ont quitté Lyon déjà? Est-ce que certains parmi vous ont pris l'avion? Quand tu prends l'avion et que tu vas vers une destination style carte postale, à quoi tu penses dans l'avion? À ce qui est au bout de l'aéroport d'arrivée, d'accord? Dormir. Est-ce qu'il y en a qui passent leur temps à philosopher sur la décoration du siège de l'avion? Vous connaissez Alain Auderçay? Alain Auderçay, il a eu cette phrase, je cite, « Si notre vie ici-bas représente un simple voyage en avion, ne misons pas trop sur la décoration du siège. » J'ai trouvé ça très profond, je ne sais pas pour vous. Et ça va introduire cette soirée. Est-ce que tu es satisfait de ta soirée? Satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Brice, je pense qu'il est satisfait de sa vie. Mais on ne va pas parler trop de Brice ce soir. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Je parle de voyage et nous allons voyager. Ça, c'est les sièges qu'on peut trouver dans certains avions, mais pas ceux que je prends. Il y a 2000 ans en arrière, on va voyager, se retrouver à l'époque de Jésus, et nous retrouvons l'apôtre Paul qui se promène dans la capitale grecque, et le voici stupéfait par le grand nombre de monuments religieux qu'il rencontre sur son passage. Plein de divinités. Alors il y a une déesse de la beauté par-ci, un dieu de la guerre par-là, une déesse de la fécondité par-ci, de la richesse par-là, un dieu des artisans par-là, etc. Et le livre des Actes, donc de la Bible, nous rapporte à cette époque que chaque ville imprégnée de la culture gréco-romaine avait sa palette de dieux et d'idoles. Et bien sûr, lorsqu'aujourd'hui nous parlons d'idoles, on aurait envie de dire que ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est plus notre monde aujourd'hui. Peut-être nos contemporains diraient, d'ailleurs, on voit pas du tout ce que tu veux dire en utilisant le mot idole. Un peuple primitif qui se met à genoux devant des bouts de bois décorés ou des statues, ça n'existe plus, dirions-nous. Ce temps-là est révolu. Après tout, dans le monde occidental, nous ne nous prosternons plus devant Aphrodite, devant Arès, Artémis, Héphaïstos et les autres. Alors ça, ce ne sont pas des joueurs de foot, hein, ce sont des dieux. Notre monde occidental rationnel et scientifique ne s'abaisserait certainement pas à se prosterner physiquement devant de telles divinités, n'est-ce pas? À moins que sur ce point-là, notre société d'aujourd'hui ne soit pas si différente que cela de la culture et de la société d'il y a 2 millénaires. Alors de quoi je vais parler ce soir? Je vais tout d'abord parler de ces idoles qui sont très peu satisfaisantes, trop décevantes. Mais je vais aussi parler de celui qui est le seul suffisant et qui est capable de me satisfaire, de te satisfaire pleinement. Le titre que j'aurais pu donner à cette exhortation aurait pu être « Ne nous trompons pas de Dieu, adorons le bon. » Adorons le bon Dieu. Mais comme je le trouvais un peu long, je l'ai intitulé « Satisfait en Christ ». Satisfait en Christ. Avec cette question, es-tu satisfait de ta vie? Alors, je viens de parler de la culture idolâtre qui était celle de l'époque de Paul, sous certains aspects. La culture actuelle ressemble étrangement à celle d'il y a 2000 ans. Dans un récit biblique, Dieu décrit un groupe de personnes, c'est dans la bouche du prophète Ézéchiel, des personnes, il dénonce le fait que ces personnes portent leurs idoles sur leur cœur. Elles portent leurs idoles sur leur cœur. Alors nous, du haut de notre 21e siècle postmoderne et technologique, Nous pourrions rétorquer que cela ne nous concerne pas de porter des idoles sur nos cœurs. J'ignore comment vous réagiriez si Dieu vous dirait « Vous portez des idoles sur votre cœur ». En tout cas, ce texte, extrait du livre d'Ézéchiel, nous fait savoir que Dieu dénonce cette attitude non pas chez des païens, non pas chez des jeunes, mais chez des anciens. Il est en train de décrire le cœur d'anciens, des anciens de son peuple. À la lumière de la Bible, et dans l'un des livres les plus saisissants que j'ai lus ces 10 dernières années, les idoles du cœur, quand ce que vous adorez vous déçoit, et l'image est très parlante, je trouve, vous avez un cœur ici en glaçon, et plus vous le serrez, et plus ce cœur fond. Donc dans ce livre, et dans l'écriture aussi, nous voyons que finalement le cœur humain est une fabrique d'idoles. Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Et l'auteur, Timothy Keller, qui est à mon avis l'un des plus pertinents de ces dernières années, traduit en français, il observe les sociétés à travers les âges et il montre par exemple que par cet aspect, l'idolâtrie, notre société contemporaine ne diverge pas tant que cela des pratiques antiques et que chaque culture est subtilement dominée en réalité par une pléthore d'idoles. Finalement, ce qui a changé, c'est la prêtrise, les totems, ce ne sont plus les mêmes, les rites, les temples, tout ça, ce ne sont plus les mêmes. Mais qu'il s'agisse des hauts gratte-ciel, des spas, des salles de fitness, des studios, des écrans, des stades, une multitude de lieux et de situations existent où des sacrifices sont couramment pratiqués, dans l'attente que ces choses nous procurent les plus grandes bénédictions, dans l'attente que ces choses, finalement, atténuent nos peines, pourtant inhérentes à la vie ici-bas. Alors, es-tu satisfait de ta vie? Alors, après quoi cours-tu? C'est une autre question que je te pose, et que tu peux garder dans ta tête. Après quoi cours-tu? Si tu devais nous dire comme ça, maintenant, les trois choses que tu amènerais avec toi sur une île déserte, si tu devais y aller, c'est la question qu'on pose, qui nous arrive jamais, mais on la pose souvent, des fois dans l'animation. Si tu devais partir avec trois choses, ça serait quoi? La réponse à cette question, qui rejoint aussi « Après quoi cours-tu ?», la réponse à ces questions est en train de révéler ce à quoi tu es attaché, ce à quoi tu es peut-être très attaché. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? C'est une question que j'aime beaucoup poser. C'est une question de coach, hein, ça. Qu'est-ce qui occupe ton temps? Dans ces réponses, dans ces questions, se trouvent des réponses qui vont révéler ce à quoi tu es attaché. Alors, nous ne rencontrons aujourd'hui plus personne se prosterner physiquement devant une statue d'Aphrodite. Mais il arrive cependant que des personnes soient omnibulées par leur image, au point d'en souffrir. Elles sont très attachées, ces personnes, à leur image. Parmi vous, il y a des lycéens, des étudiants, il y en a qui sont dans la vie active. Et, bien sûr, nous ne brûlons pas d'encens devant Artémis, qui est la déesse de la richesse. Je pense que personne ne fait ça. Sinon, vous pouvez me le dire, mais... En revanche, la manière de gérer un plan de carrière, la course au gain, la course au profit, peut prendre des proportions telles qu'elle nous fasse sacrifier certaines choses. Nos enfants, notre conjoint, notre relation avec notre conjoint, nos familles, nos communautés. Et ça pourrait être une tendance de nous faire sacrifier tout ça, tout simplement pour acquérir davantage de sécurité, de confort pour nous rassurer. Et finalement, en faisant d'une carrière brillante, ou alors d'une relation amoureuse, ou alors en faisant encore de biens matériels des biens suprêmes, donc en transformant ce que je viens de décrire en priorité absolue, en bien suprême, peut-être que le cœur humain est en train de fabriquer finalement rien d'autre qu'une idole de plus. D'où cette idée que le cœur fabrique des idoles. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu. Ils s'imaginent que ces choses-là, que j'ai décrites, nous apporteront la sécurité, la protection, des garanties, le bonheur, la paix, la reconnaissance, une légitimité, le sens de l'existence, de l'importance, de l'épanouissement, de la satisfaction, etc., etc., etc. Et même des fois tout ça en même temps. Mais quand on est honnête, me semble-t-il, l'actualité nous rappelle régulièrement que pour ceux qui sacrifient beaucoup au Dieu succès, ou à n'importe quel autre Dieu en général, hein, je parle des petits dieux ici, cette courte incessante sera toujours insuffisante et parfois même dramatique. Comme si aucune de ces idoles, que ce soit Artémis, Aphrodite ou les autres, comme si aucune de ces idoles n'était en mesure de nous satisfaire pleinement. En fait, c'est justement ça. Aucune de ces idoles n'est pleinement satisfaisante. Tout simplement, car aucune de ces idoles n'a le pouvoir de nous satisfaire complètement. Aucune de ces idoles n'a la capacité de nous combler profondément, durablement. Alors oui, chacune de ces idoles, chacune de ces choses peut, bien entendu, pendant un temps, nous apporter satisfaction. Pendant un temps seulement. Aucune d'entre elles n'a le pouvoir de répondre à nos aspirations profondes durablement. Je suis sûr que si tu penses à l'une des choses que j'ai décrites tout à l'heure, que je suis en train de décrire, tu ne peux pas te dire « ça, avec ça, je suis complètement comblé, complètement satisfait dans ma vie ». En fait, toutes, chacune se révèle un jour ou l'autre insatisfaisante. Et c'est normal. Nous ne devons pas être surpris. Nous n'avons pas été créés pour trouver pleinement notre satisfaction dans ces choses-là. Nous n'avons pas été créés pour trouver pleinement satisfaction dans ces idoles éphémères. Donc nous ne devons pas être surpris. Tout simplement parce que, quelles que soient ces créations ou ces créatures en tant que choses éphémères, aucune d'entre elles n'a le pouvoir de nous satisfaire pleinement. Et même pire, en fait, ces choses-là nous emprisonnent. Elles finissent par nous emprisonner à cause de l'attachement excessif que nous portons à ces choses. Donc finalement, les idoles créent des dépendances qui ne nous mènent pas à la vraie liberté. Au contraire, elles nous en privent, nous dominent, nous maîtrisent, et finalement, elles ne nous orientent pas pour entrer dans les œuvres époustouflantes de notre Dieu créateur. Alors qu'appelle-t-on une idole ? Qu'appelle-t-on une idole ? Si je vous demandais de définir ce qu'est une idole sans, par exemple, regarder sur le tableau, vous diriez quoi ? J'en vois qui regardent hein, sur l'écran. Oh, c'est pas mal ça. Répète. Quelqu'un a dit autre chose de ce côté-là ? Ouais, ok, excellent. L'idolâtrie, c'est un attachement excessif à quelque chose. Alors, quelque chose qui est forcément mauvais ? Non, pas forcément. C'est quelque chose de mauvais, un attachement excessif à quelque chose de mauvais, ça c'est sûr. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être un attachement excessif aussi à quelque chose qui est bon, qui est neutre, entre guillemets. Je vais illustrer ce que je dis, mais on a des fois tendance à penser que l'idolâtrie c'est un attachement à les choses mauvaises uniquement. Alors absolument n'importe quoi devient une idole lorsque, et à partir du moment où le cœur humain considère cette chose au point de l'élever au rang de Dieu. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Donc en fait, finalement, pour le dire autrement, ce que je trouve captivant pourrait bien me rendre captif si je me laisse captiver par cette chose. Et en étant captivé, captif par cette chose, je deviens idolâtre. Donc par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, quelqu'un venait habiter une semaine chez toi et venait marcher dans tes baskets. Alors qu'est-ce qu'il pourrait remarquer au bout de cette semaine? En fait, il pourrait remarquer ce à quoi tu es attaché. Ce que tu fais avant de te coucher, ce que tu fais en te levant le matin. Ce que tu fais dans la journée, le nombre d'heures que tu passes à ceci, à cela. Les choses qui te mettent en colère, les choses qui révèlent des traits de personnalité particuliers. Pense à quelque chose dans ta vie qui interpellerait cette personne venant passer une semaine chez toi. Elle pourrait dire à la fin de cette semaine, finalement, j'ai une petite idée sur une idole chez mon ami. Les dieux alternatifs sont des contrefaçons. Ce sont des alternatives au vrai Dieu. Mais si ces petits dieux, avec un petit dé, lui font de l'ombre, ils n'ont pas les mêmes effets, bien entendu, que le vrai Dieu. Eux, ce sont des dieux mortifères. Ce sont des dieux morbides. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme dieu alternatif au vrai Dieu? On se fait une petite liste. L'OL, ça peut être effectivement une alternative. Il y a des supporters de l'AS Saint-Étienne ici? Pardon. Mais il y en a peut-être qui collectionnent les images Pamini encore. Vous avez compris ce que ça peut être des alternatives, mais j'en ai d'autres. J'ai aussi noté. Qu'est-ce que ça peut être comme. Je vous pose la question à vous. Comme autre alternative au vrai Dieu? La nourriture? L'ordinateur? Internet? La science? La paresse? Les jeux en réseau, le smartphone, la tablette, la voiture, le porno, le matage, le pouvoir de séduction? Alors effectivement, tout ça, c'est à partir du moment où... D'ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas forcément négatives là-dedans. Quand je parle de l'OL, c'est pas forcément négatif. Ça dépend pour qui, mais... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément négatives en soi. Un smartphone, c'est pas forcément négatif en soi. Il y en a qui sont franchement négatives. Mais quand on regarde et quand on considère la définition que j'ai donnée, donc ce qui nous attache excessivement à quelque chose... Négatif ou pas, la liste, elle est finalement infinie, puisqu'il s'agit de quelque chose à laquelle je peux m'attacher. Et nous pouvons nous attacher à des choses excessivement, et des choses qui sont contenues dans une liste infinie. Ça peut mettre ma maison aussi, hein, ça peut être le dieu écologie. Moi, je suis dans une région où, avant, j'étais à Grenoble, il y avait le dieu montagne. Peut-être vous ne l'avez pas ici. Mais ici, maintenant, je suis en Drôme, je suis dans une région où le dieu, c'est écologie, c'est le dieu écologie, le dieu nature. Il y a le dieu santé aussi, le dieu vacances, le dieu voyage, le dieu mes propres enfants, le dieu ma réputation, le dieu mon fiancé, ma fiancée, mon dieu la quête de l'amour, mon dieu mon thermomix, etc. Alors finalement, la liste, elle est infinie. Vous l'avez compris, la liste, elle est infinie. Il y en a qui ont le thermomix ici, c'est ça? Il y en a qui ne savent pas ce que c'est, mais je ne savais pas non plus jusqu'à il y a quelques années. Donc je disais, ces dieux alternatifs... Ces dieux alternatifs, même s'ils peuvent nous faire vibrer pendant un temps, ils peuvent nous faire vibrer pendant un temps, c'est pour ça qu'on tombe dans le panneau d'ailleurs, ils ne sont rien comparés au vrai Dieu, à celui qui est vivant. Et ça, on doit être conscient de ça. Nous devons nous rendre à l'évidence que chacune de ces choses n'a et n'aura jamais le pouvoir de nous satisfaire convenablement, d'une manière satisfaisante, d'une manière durable. Et puisqu'aucune de ces choses aucune de ces choses n'a ce pouvoir. Nous ne sommes pas obligés, et nous ne devons pas nous croire obligés de chérir ces choses en nous y attachant. Nous avons la possibilité de nous attacher à quelque chose d'autre dont je vais parler, mais nous avons surtout la possibilité de chercher ailleurs, là où nous pourrons trouver une réelle satisfaction, une satisfaction pleine, durable, entière. C'est pourquoi Jean, dans sa première épître, dira « Gardez-vous des idoles, gardez-vous des idoles. » Ce qu'il est en train de dire, c'est « Faites preuve de bon sens en cherchant cette liberté, la vraie liberté, pas cette fausse liberté qui, finalement, va vous emprisonner. » Et d'où cette seconde partie. On a parlé de ces idoles décevantes. Donc ça, c'est l'avertissement de Jean, « Gardez-vous des idoles. » Et cette seconde partie, pour nous encourager à chercher le seul et vrai chemin de liberté. Nous voulons regarder là où se trouve la vraie liberté. Et pour ça, nous ouvrons la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, regardez le chapitre 3 que Paul a écrit aux chrétiens de la ville de Colosse. Je vais lire les versets 1 à 5, donc Colossiens chapitre 3. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous ou ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie amorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer d'autres dieux. Je vais laisser le texte pour ceux qui ne l'ont pas sous les yeux. Et puis, je vais juste faire l'un ou l'autre petit commentaire. Cherchez les choses d'en haut, là où est Christ, écrit Paul au verset 3. Alors, j'ignore comment et où les uns et les autres vous cherchez Christ. Et si vous le cherchez déjà, et si vous le cherchez dans votre quotidien, et si pour vous c'est une attitude active, une démarche active. Mais pourquoi, je pose la question, pourquoi chercher Christ, même pour ceux qui sont déjà chrétiens? Pourquoi chercher Christ? Je vous pose la question comme ça, si vous avez des éléments de réponse qui vous viennent. Pourquoi tu cherches Christ? Pour éviter de chercher autre chose? Parce qu'il est bon? Parce qu'il a donné sa vie? Parce qu'on est attiré à lui? Pour lui ressembler? Pour être sauvé? D'après le verset 4, le Christ est censé être votre vie, dit Paul. Christ est votre vie. Donc s'il est notre vie, nous voulons le chercher et dépasser simplement la joie d'avoir le ticket pour le ciel. Et dépasser un créneau de 3 heures par semaine où on pourrait se dire « Ok, c'est bon, j'englobe Dieu dans ma vie pendant un petit créneau. » Non, Christ est notre vie. Christ est votre vie, dit Paul. Il est votre vie, il n'est pas une partie de ta vie. Il est votre vie. Et là, je suis en train de parler du secret de la satisfaction dans le quotidien. Un autre élément, c'est aussi, et c'est Paul qui le dit aussi aux chrétiens de Colosse au chapitre précédent, pour ceux qui ont la Bible, c'est au chapitre 2, verset 17, à un moment donné, c'est dit « La réalité est en Christ ». Donc en fait, si tu cherches la réalité, si tu cherches la vérité, tu ne vas pas la trouver ailleurs qu'en Christ. Donc finalement, pour une question de réalisme et de vérité, nous allons nous encourager à chercher Christ. Et dans ce même livre, il est écrit cette chose extraordinaire, je trouve. « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout ce qui existe ne subsiste que par lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Et vous avez tout pleinement en lui. Il est celui qui réconcilie l'humanité avec Dieu le Père en offrant par sa vie offerte sur la croix la paix profonde. » Je viens de parler de Jésus là. Je viens de parler de Jésus. Pourquoi chercher Jésus-Christ ? D'autres raisons encore. Est-ce que c'est parce qu'il nous garantit la santé ? Est-ce que c'est parce qu'il nous garantit la richesse ? Non. D'après ma Bible, non. Pas la santé et la richesse ici-bas, en tout cas. Pourquoi chercher Christ ? Vous connaissez ce récit de Jésus qui croise cette femme qui était, qui a eu 5 maris, donc qui a eu une vie sociale, affective et très bouleversée. Et à qui Jésus dit, bois de cette eau fraîche, qui fera que tu n'auras plus jamais soif. Donc avec lui, finalement, nous n'aurons plus jamais soif. Nous pouvons trouver la vraie satisfaction en lui. Et nous ne pouvons pas trouver notre satisfaction en dehors de la source de vie. C'est aussi une conséquence. Alors pourquoi chercher encore premièrement Christ ? Parce que là, c'est Pierre qui le dit, l'apôtre. Christ est suffisant. Il est suffisant. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de Christ plus d'autres idoles, à la différence des autres idoles qui sont jamais satisfaisantes. Donc il faut que je les cumule, hein, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est idolâtre d'une seule chose. Ça va de pair avec d'autres idolâtries. Mais Christ est suffisant. Et c'est pourquoi il est le seul véritablement digne d'être adoré. Je suis désolé, mais ma tablette, elle n'est pas digne d'être adorée. Je suis désolé, mais le Thermomix, il n'est pas digne d'être adoré non plus. Toute la liste de ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez quelque chose qui soit digne, là, comme ça, on discute, là, hein? Quelque chose qui soit digne d'être adoré. Le Thermomix, suffit d'un... Il peut tomber en panne. La tablette, j'ai à un moment donné fait une mise à jour qui était fatale. J'ai tout perdu. J'ai dû passer par un informaticien qui n'a pas tout récupéré. Tu peux prendre chaque chose. Il n'y a rien de pleinement satisfaisant. Paul a écrit aussi que dans ce même livre qu'il a écrit à Colosse, dans cette lettre, dans l'union avec Jésus-Christ, délivré de notre être pécheur, vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts, donc qui fait appel à leur foi. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Autrefois, vous étiez morts. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Et si vous vivez avec le Christ, ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de croire que vous êtes esclave de toutes ces idoles. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. On a chanté l'un ou l'autre chant qui nous stimule dans cette réflexion, dans cette attitude de reconnaissance. Par rapport aussi à ce texte que je viens de lire, est-ce que nous voudrions manquer de reconnaissance envers ce Dieu infiniment grand qui allait nous chercher de très très loin et qui, par son sacrifice d'amour, a changé notre réalité, notre identité, mais aussi notre cœur profond, pour lui insuffler la vie, la vraie vie? Est-ce que nous voudrions manquer de reconnaissance envers ce Dieu-là? Est-ce que nous voulons encore accepter de ne pas banaliser la faveur imméritée qu'a été le salut offert en Jésus ? Et faire de lui finalement, est-ce que nous ne voulons pas faire de lui notre objet d'adoration premier ? Ce Dieu-là qui finalement n'est pas comparable à l'infinité de petits dieux qui sont très pâles à côté de lui, ce Dieu-là est le seul qui est digne d'être adoré. Digne d'être adoré, et c'est pourquoi Dieu offrit dans son grand amour à son peuple nouvellement délivré, une parole, une ordonnance. Tu sais, des fois on dit que Dieu c'est le divin médecin, et c'est vrai. Il a laissé une ordonnance fantastique. On trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est si bon qu'il nous exhorte à cibler le seul et vrai Dieu satisfaisant en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Plutôt que de nous laisser aller à des dieux décevants. Alors avant de conclure, je poursuis brièvement avec des implications et des applications. Finalement, ce qui nous encourage à chercher Christ, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Alors, quelques implications pour vous et pour moi. J'ai rappelé que l'idolâtrie est un attachement excessif à quelque chose qui finira par nous priver de la vraie liberté. Et je maintiens aussi que cette vraie liberté ne se trouve qu'en Christ. Donc, ne nous trompons pas de Dieu. Ne nous méprenons pas en nous attachant à ce qui ne nous apportera jamais une satisfaction complète. Choisissons le bon Dieu, le vrai Dieu. Le Dieu véritable, Père, Fils, Esprit, et ça à chaque instant de notre quotidien. Et puis la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes déjà attachés à un autre Dieu ou à d'autres dieux, des petits dieux, rien n'est perdu. Ne faisons pas le jeu de l'adversaire qui voudrait nous faire croire que finalement, si nous sommes attachés à des petits dieux, c'est fini pour nous, on n'arrivera pas à s'en défaire, etc. Tout ça, c'est bien sûr ce qui fait partie du mensonge de l'adversaire. Mais la victoire, en même temps, semble rarement... Elle est à portée de main, ça c'est sûr, mais elle vient rarement toute seule. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos vies. Elle vient plutôt par, de toute manière, une humble mise en lumière, une qualité de vérité sur moi-même, sur nous-mêmes, et devant Dieu, et souvent devant un frère ou une sœur de confiance, avec des guérisons et des prises de conscience et de position qui vont m'entraîner sur le chemin de la liberté, de la délivrance, de la libération. Christ est suffisant, et quand tu vas trouver de mieux en mieux ta satisfaction en lui, ça va t'aider à plein de choses. Trouver sa satisfaction en Christ va nous aider à tenir face aux tentations diverses et avariées qui nous environnent. Et ça va aussi nous aider à nous détacher du péché qui nous emprisonnait. Dit autrement, plus tu t'attaches à Christ, plus ça te libère du reste. C'est presque mathématique. Nous avons été créés pour jouir de notre relation avec Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés. Et tout ce qui contribue à cela nous fait vivre selon son dessein initial. C'est que des belles choses. Et puis, après ces implications, des applications, rien ici-bas n'a été prévu pour m'apporter entière et complète satisfaction. Je répète un peu, mais je pense que c'est important qu'on comprenne que de toute manière, quelle que soit ta situation actuelle, ici-bas, tu ne trouveras jamais complète satisfaction dans ce pourquoi tu t'investis. Ça pourrait te sembler un peu pessimiste, mais je pense que plus tôt tu comprends ça, et plus tôt tu vas t'accrocher à celui qui est complètement satisfaisant. Donc finalement, c'est très, très optimiste ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucune situation professionnelle qui pourra te satisfaire complètement. Mais c'est pareil avant, quand tu es étudiant, quand tu es au lycée. La situation du cœur, la vie sentimentale et affective. Même si tu as beaucoup d'amis sur Facebook, il n'y a rien qui te rendra aussi satisfaisant, aussi satisfait que l'amitié que tu peux avoir avec le Seigneur Jésus. La santé, au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, tout le monde a quelque chose, quelque part. Rien n'est complètement satisfaisant, pleinement. L'humeur, et puis peut-être même ton église, peut-être tu dis, mais mon église non plus, elle n'est pas satisfaisante. Ouais, il n'y a rien, rien, rien qui puisse être pleinement satisfaisant, durablement. Donc, si tu comprends ça maintenant, c'est super. Et si tu t'attaches ensuite à celui qui est pleinement satisfaisant et le seul qui peut l'être, c'est encore mieux. C'est 100 fois mieux. Donc rien, ici-bas, n'a été prévu pour cela, si ce n'est Jésus-Christ. Dieu n'a pas imaginé nous donner la possibilité de trouver une pleine satisfaction ici-bas sans lui. Il n'a pas imaginé ça. Donc c'est pas la peine de passer ma vie à essayer de prouver que c'est possible de trouver ma satisfaction sans lui. Et au risque de paraître un petit peu absolu, je dirais que seul Jésus, qui est le chemin, il n'est pas un chemin, il est le chemin, seul Jésus qui est la vérité, il n'est pas une vérité parmi d'autres, il est la vérité, le chemin, la vérité, la vie, seul Jésus est capable et suffisant pour nous satisfaire. Notre union avec Jésus, notre amitié avec lui, lorsque nous la nourrissons, lorsque nous sommes reconnaissants pour ce qu'il nous donne, pour la vie que nous avons avec lui, pour l'œuvre qu'il a commencé de faire dans notre vie, le contentement, quoi. Lorsque nous avons tout ça, lorsque nous cultivons le contentement, Jésus est le chemin qui nous permet de trouver la satisfaction. Alors je conclue. Jésus est mort pour nous, pour l'interrogation. C'est pourquoi nous voulons vivre pour lui. J'ignore si vous êtes fiers de votre CV. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui avez un CV absolument impressionnant. Des fois, j'en ai qui circulent dans les mains. Je me dis, comment le gars, il arrive à faire ça? Il a 10 ans de moins que moi, il a 4 pages et demie. Est-ce que c'est ça qui vous satisfait? Il y avait un homme qui avait un CV impressionnant. Il a fait cette liste pour dire, en fait, c'est pas terrible finalement, à côté de connaître Dieu. Cet homme, c'est l'apôtre Paul. Aux chrétiens de la ville de Philippe, Paul énumère les éléments de son CV. Et jusqu'avant sa rencontre avec Jésus, il s'était confié et attaché dans ces éléments. Il en était fier. Mais il explique qu'il y a eu un changement radical dans sa vie, un changement de cœur profond. Il a connu un vrai miracle. Et ensuite, il écrit, Philippiens, chapitre 3, « J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause de Christ, je trouve que c'est une perte, ce CV. Connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qui l'a fait se lever de la mort. J'aimerais te proposer de fermer les yeux. Si tu le désires, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu es davantage attaché dans ta vie qu'à Jésus? Est-ce que Dieu révèle des choses ce soir? Des choses qui ne te satisfont pas complètement? Des choses qui te déçoivent? Si l'Esprit Saint les révèle ce soir, tu pourrais prendre une décision formidable qui serait de te repentir de confesser. Tu peux le faire bien sûr dans ton cœur maintenant. Tu peux le faire aussi encore mieux à voix haute. Peut-être un autre moment. Parce que comme ça, le monde invisible aussi prend acte de ton positionnement. Tu peux le faire aussi encore mieux à voix haute et avec des responsables de ton groupe de jeunes ou avec des anciens, tes anciens. Te repentir pour changer d'orientation. Tu nommes le péché, il faut appeler un chat, l'idolâtrie que tu avais sur l'attachement excessif que tu avais par rapport à une chose. Tu le nommes bien. Et ensuite, tu dis, ça, je n'en veux pas, c'est fini dans ma vie. En tout cas, pas cet attachement à ce point-là. Ce n'est pas forcément une chose mauvaise. Dieu éternel, tu as que des belles choses en réserve pour chacun de tes enfants. Et nous voulons te dire merci, tu es un Dieu généreux, un Dieu abondant, un Dieu qui a prévu de nous faire bénéficier de ta vie. Merci pour la présence de Jésus dans nos vies, du Saint-Esprit. Merci aussi pour l'œuvre de guérison, de miracle, lorsque nous reconnaissons que nous sommes trompés de cible, de priorité. Et je te prie que s'il y avait, il y en a parmi nous ce soir qui sont attachés excessivement à quelque chose, je te prie que tu les sensibilises, que tu les encourages à se positionner dans le chemin de vie, dans le chemin de vérité, dans le chemin de liberté. Et que tu donnes de prendre une décision, soit d'en parler ce soir, soit d'en parler demain, soit de prendre le téléphone et de prendre l'agenda pour en parler cette semaine. Merci parce que tu veux pour nous la liberté, la vraie liberté. Et la vraie liberté se trouve en Christ. Sois béni, sois glorifié. Nous voulons rechercher les choses d'en haut parce que c'est celles-ci, ces choses-là qui nous font respirer l'air pur. Même si nous sommes dans un monde où l'air pur est rare, nous voulons nous accrocher à toi, nous attacher à toi. Que tu sois notre seul Dieu. Sois béni, sois glorifié. Merci de nous encourager les uns les autres ici présents ce soir. Pour un réveil dans nos vies. Pour une vie satisfaisante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.